Castorama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 28 mars 193, l'Empire romain est mis aux enchères. Au IIe siècle de l'ère chrétienne, l'Empire romain s'étend sur près de 4 millions de kilomètres carrés, de l'Écosse au Sahara, de l'Atlantique à l'Euphrate. Rome est au sommet de sa gloire. Pourtant, le 28 mars 193, l'Empire romain est mis aux enchères. Nerva, Trajan, Adrien, Antoine et Marc Aurèle, ces règnes sont considérés comme exemplaires. Ils marquent l'apothéose de l'Empire romain. Cependant, Marc Aurèle, cet homme grand et bon, ce philosophe empereur plein de sagesse et d'humilité, commet une erreur tragique. Au lieu d'imiter ses quatre prédécesseurs et de choisir pour lui succéder l'homme le plus qualifié, il opte pour son fils, Commode, dont le biographe livre une description sans compromis. Il était vil, malhonnête, libidineux, grossier et dépravé. Commode gouverne 12 années. Il aurait pu se maintenir au pouvoir plus longtemps, s'il n'avait pas offensé la garde prétorienne. Un jour, devant toute la garde assemblée, il pousse le préfet du prétoire dans la piscine impériale, après quoi il le fait danser entièrement nu devant ses concubines et le tue. Le nouveau préfet, Laetus, comprend rapidement la nécessité d'écarter l'empereur. Marcia, la maîtresse de Commode, et Éclectus, son chambellan, participent à sa conspiration. La nuit du Nouvel An 192, ils empoisonnent celui qui se voulait le jeune Hercule, comme la potion agit trop lentement. Il convoque un lutteur professionnel qui rompt le cou de l'empereur dans son bain. Comme successeur, Laetus choisit un homme de bien, un véritable et vertueux sénateur nommé Pertinax. Les troupes approuvent le choix de leur préfet, mais grognent dès l'instant où Pertinax les invite à se conduire en soldats. Il veut un retour aux plus anciennes vertus romaines, la discipline et l'austérité. Il vend aux enchères le luxueux mobilier de Commode et son vaste harem bisexuel. Les repas impériaux deviennent ascétiques. Les serviteurs du palais pressent les gardes prétoriens de tuer cet obsédé de discipline. Ainsi, le 28 mars 193, après 87 jours de règne, Laetus et ses soldats tuent Pertinax et ramènent sa tête au camp. Mais Laetus n'a pas la moindre idée du successeur. Des soldats courent dans les rues de Rome en criant que le titre impérial est en vente, au plus offrant. Cette agitation est propice aux opportunistes, le premier candidat à se présenter est Sulpicianus, le praefetus orbi, équivalent du maire de Rome. Il fait de toute évidence bonne impression aux soldats. C'est alors que Didius Julianus, l'homme le plus riche de la capitale impériale, apparaît accompagné de son gendre Repentius. En approchant des murs de Rome, ils entendent les cris rauques des soldats qui refusent de les laisser entrer. Didius Julianus crie en vain aux gardes son identité. Un plan ingénieux lui vient alors à l'esprit. Il fait hisser des pancartes sur les murs pour transmettre son message. Il y proclame son intention de faire revivre la mémoire de Commode. C'est un trait de génie. Aussitôt, une échelle est placée contre la muraille pour permettre l'ascension du corpulent millionnaire. La confrontation entre Didius Julianus et Sulpicianus débute alors. Tandis que chacun augmente son offre, le monde oscille. Au moment où les enchères se stabilisent, à 23 000 sesterces, Didius Julianus frappe un grand coup. Il crie 25 000. Le tour est joué. Il est empereur. Il est porté en triomphe dans Rome. Le Sénat doit ratifier cette désignation. Une séance est convoquée le soir même. Didius Julianus prononce un discours dans lequel il ne fait aucune allusion à la garde prétorienne qui encercle le bâtiment. Entrant au palais impérial, le nouvel empereur tombe sur le corps décapité de Pertinax. Cette vision morbide lui provoque un rire qui s'accentue devant le repas frugal que son défunt prédécesseur n'a pas achevé. Il ordonne que les restes de la collation soient jetés aux chiens et commande un festin. Le bref règne de Didius Julianus n'est qu'un très long banquet. Avide de reconnaissance, il donne de nombreux dîners pour les sénateurs. Mais rien ne peut adoucir son goût. Le Sénat le hait autant que le peuple. Il règne 66 jours. Le 1er juillet 193, l'armée de Septime Sévère pénètre dans Rome et dépose l'homme qui a acquis l'Empire romain entre l'entrée et le dessert. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire Un jour trois livres qui a été préparée comme chaque semaine par Emmanuel. Nous écoutons Jacques Brel qui en 1975 interprétait Le Cheval.
J'étais bien plus heureux, bien plus heureux avant, quand j'étais cheval, que je traînais, madame, votre landau, jolie madame, dans les rues de Bordeaux. Mais tu as voulu que je sois ton amant, tu as même voulu que je quitte ma jument. Je n'étais qu'un cheval, oui, oui, mais tu en as profité, par amour pour toi, je me suis déjumenté. Depuis toutes les nuits, dans ton lit de satin blanc, je regrette mon écurie et ma jument. J'étais vraiment, vraiment bien plus heureux, bien plus heureux avant, quand j'étais cheval, que tu foutais, madame, la gueule par terre, jolie madame, quand tu forçais le cerf. Mais tu as voulu que j'apprenne les bonnes manières, tu as voulu que je marche sur les pattes derrière. J'étais qu'un cheval, oui, oui, mais tu m'as couillonné, hein. Par amour pour toi, je me suis derriérisé. Depuis toutes les nuits, quand nous dansons le tango, je regrette mon écurie et mon galop. J'étais vraiment, vraiment bien plus heureux, bien plus heureux avant, quand j'étais cheval, que je te promenais, madame, sur mon dos, jolie madame, en forêt de Fontainebleau. Mais tu as voulu que je sois ton banquier, tu as même voulu que je me mette à chanter. Je n'étais qu'un cheval, oui, oui, mais tu en as abusé. Par amour pour toi, je me suis variété. Depuis toutes les nuits, quand je chante, ne me quitte pas, je regrette mon écurie et mes silences d'autrefois. Et puis, tu es parti radical avec un zèbre mal rayé. Le jour, madame, où je t'ai refusé d'apprendre à monter à cheval, mais tu m'avais pris ma jument, mon silence, mes sabots, mon écurie, mon galop, tu ne m'as laissé que mes dents. Et voilà pourquoi je cours, monde en hennissant, me voyant refuser l'amour par les femmes et par les juments. J'étais vraiment, vraiment bien plus heureux. Bien plus heureux avant, quand j'étais cheval, que je promenais, madame, votre landau. Quand j'étais cheval et quand tu étais chameau.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres qui a été préparé comme chaque semaine par Emmanuel et que j'ai le plaisir de vous présenter, à commencer par Le Roué de Jeanne de Gilles Laporte, écrivain vosgien très estimé, c'est publié dans la collection Terre de France aux éditions Presse de la Cité. Fruit du talent des ébénistes locaux, le roué des Mangeons serait celui de Jeanne d'Arc. Cette famille de Lorraine en a fait son symbole de résistance à l'occupation prussienne de l'Alsace-Moselle après la défaite de 1870 et le vénère telle une relique à chaque Saint-Jean. En 1894, artisan réputé, le père Mangeon meurt, foudroyé par le choléra. Malgré le soutien de sa fille, Hermance, la mère subit son veuvage. Instable, Germain, le fils, part travailler le cristal à Baccara. Un matin de 1903, Hermance s'effondre, le roué a disparu. Par chance, elle l'avait dessiné. Elle décide de le reproduire à l'identique en mémoire de son père et fait appel à Léonce. Ce jeune sculpteur sur bois la désire depuis longtemps. Il accepte à condition qu'elle l'épouse. De 1900 à 1945, ce roué deviendra un symbole de résistance face à l'occupant allemand. Ce livre est aussi une ode tout à fait remarquable à la culture lorraine. Le Roué de Jeanne de Gilles Laporte s'est publié dans la collection Terre de France aux éditions Presse de la Cité. L'ivresse des sommets, l'Allemagne et les Allemands, 1918-1933 de Harald Jenner aux éditions Actes Sud. Nous voici plongés dans une période phare de l'histoire allemande, la République de Weimar. L'auteur dresse le portrait saisissant de cette courte vie entre les guerres, où l'euphorie de la modernité côtoyait l'angoisse d'un avenir incertain, pour finir par l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en 1933. Dynamique sociale explosive face aux crises, montée de la haine, instabilité politique, turbulence politique profonde et paradoxe économique, turbulence des mœurs, émancipation féminine, Bauhaus. L'auteur ausculte les états d'âme collectifs de cette période fascinante dans cet ouvrage essentiel pour qui veut comprendre les racines du XXe siècle. L'ivresse des sommets, l'Allemagne et les Allemands, 1918-1933, de Harald Jenner, s'est publié aux éditions Actes Sud. Et nous terminons cette chronique par Les sorcières et leur monde de Giulio Caro Baroja dans la collection Folio aux éditions Gallimard. Le monde change et les sorcières sont toujours les mêmes. Giulio Caro Baroja, dans sa jeunesse, avait rencontré des personnes dotées d'une mentalité spéciale, la mentalité magique. Il avait tout appris des sorcières du Pays Basque, leur pullument, révélé par un document officiel de 1466, les grands procès d'inquisition du XVIIe siècle, les autodafés comme celui de 1610 où périrent les sorcières de Zugarramurdi, les superstitions que les paysans basques entretenaient encore à la fin du XIXe siècle et dont on lui parlait dans son enfance. Puis il lut les livres sur la sorcellerie, en d'autres temps, en d'autres lieux, et partout la sorcière était égale à elle-même. Alors il écrivit ce livre, livre de structuraliste, écrit au temps où le structuralisme était une méthode scientifique et non une mode, qui à travers la description des cérémonies et des rites, des shabbats et des maléfices, atteint une psychologie archaïque, celle de la mentalité magique. Livre d'anthropologue et de sociologue qui étudie une base commune aux comportements et aux croyances d'hommes éloignés dans le temps et l'espace et analyse la psychologie collective de sociétés dominées par la peur. Livre d'historien qui a compris que ce qui change, c'est l'environnement historique des sorcières et le regard que jettent sur elles les sociétés et les systèmes de pensée qui se succèdent autour d'elles, de l'antiquité gréco-romaine au positivisme des Lumières et au scientisme du XIXe siècle, du christianisme médiéval à la psychiatrie contemporaine, de saint Augustin à Michelet, de saint Thomas à Freud, de Gaswendi à Goya. Ici, la sorcière est présentée à travers les explications changeantes d'un monde qui n'en finit pas d'exorciser Satan. Les sorcières et leur monde, de Giulio Caro Barroja, s'est publié dans la collection Folio aux éditions Gallimard. Et nous nous séparons en chanson, après avoir remercié Thomas qui a réalisé cette émission, nous nous séparons avec Guns Roses qui en 2007 chantait Dead Horse.
Sick of this life, not that you care. I'm not the only one with whom these feelings I share. Nobody understands quite why we're here. We're searching for answers that never appear. But maybe if I looked real hard, I'd see you trying to understand this life that we're all going through.
Then when she said she was gonna like wreck my car,
I'm not afraid to die. Thank you.